privilège de nous envoyer Phil ici aujourd'hui. Je veux te prier afin que tu puisses l'inspirer véritablement. Alors qu'il a préparé quelque chose, je veux te prier que ce soit ton message qui passe avant tout. Amen.
Bonjour à tous. Je suis vraiment heureux d'être ici. Je disais hier soir à Bob, je me sens vraiment comme à la maison. Je me sens chez moi. C'est étonnant de le dire, mais je me sens presque mieux chez moi ici que quand je suis en Angleterre. Alors, va comprendre. Alors ce week-end, beaucoup d'entre vous étaient ici hier soir, et nous avons vraiment posé des bases hier soir. On a parlé de notre identité en Dieu, notre identité comme fils et fille du Très-Haut. Vous êtes fils et fille du Roi. C'est merveilleux. C'est un message qui est libérateur. On a pris du temps, on a regardé les traces que l'ennemi laisse souvent en nous de cette mentalité orphelin, cette mentalité qui se cherche une place par ses propres moyens, par ses propres forces, alors que la place, elle nous a été donnée dès l'origine, aux côtés du Père, en Jésus-Christ, assis dans les lieux célestes, comme disait Bob hier soir. Et ce cœur de Père, ça a toujours été le cœur de Dieu pour son peuple. C'était vraiment une invitation hier de venir à une rencontre avec ce Père céleste, ce Père d'amour qui nous accueille dans sa famille sans condition et qui nous fait une place dans sa maison, à sa table. Donc ce matin, nous allons aller un pas plus loin et quelque part, je pense que ça va être beaucoup plus pratique d'une certaine manière, parce que j'aimerais qu'on réfléchisse à ce que ça veut dire de marcher dans cette identité d'enfant de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie quotidienne? Qu'est-ce que ça veut dire dans notre vie communautaire de vivre les uns avec les autres comme enfants de Dieu et non comme orphelins, comme esclaves, comme enfants de Dieu? Quelles sont les attitudes, quels sont les comportements, quelles sont les manières d'êtres qui doivent marquer notre vie comme enfants de Dieu. Bien sûr, on aura le temps de juste prendre quelques éléments. C'est un vaste sujet. On aurait pu tout un week-end là-dessus, mais avec le temps qu'on a, on regardera quelques éléments et j'espère que ça nous parlera ce matin. On va commencer avec une lecture dans le livre de Galates. J'ai évoqué ces versets hier, c'est un peu vraiment l'une des bases de cette compréhension de notre statut d'enfant de Dieu. On va être dans Galates chapitre 3 à partir du verset 26, je vais déborder même dans le chapitre 4. C'est des versets qui sont absolument centraux dans le livre des Galates. Et quand tu trouves quelque chose qui est au centre d'une épître ou d'une lettre, c'est souvent en fait le cœur de cet écrivain qui s'exprime. Et on va juste lire ces versets qui disent, donc à partir du verset 26 de Galates 3, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Et il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, et là Paul parle de, du peuple juif qui vivait des siècles sous le tutère de la loi. Nous aussi, de la même manière, nous étions enfants. Nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alors je me rends compte en lisant ces versets qu'il est peut-être bien que je dise quelque chose à vous, mesdames. Quand il est dit que nous sommes tous fils de Dieu, vous y êtes inclus. Ce n'est pas un truc qui est pour les hommes seulement. Il est absolument clair dans ce passage, il n'y a plus ni homme ni femme. Pourquoi est-ce que Paul utilise là le mot fils et pas le mot enfant qui serait plus neutre? C'est parce que c'est l'esprit de son fils que nous avons reçu. Nous sommes acceptés dans la famille de Dieu parce que nous sommes en son fils. Quand Dieu nous regarde, il voit son fils. Donc tous les privilèges que nous avons, c'est les privilèges de son fils. Nous sommes ses fils. Vous, mesdames, vous, messieurs, nous sommes dans le fils. Alors, si nous sommes enfants de Dieu, la première chose que Paul dit, c'est qu'il y a une vie de famille qui s'installe. Une vie de famille qui doit marquer nos relations. Et là, tu peux mettre le prochain slide. Et la première conséquence de cela, c'est que nous sommes appelés à honorer, vivre dans une culture d'honneur envers nos frères et nos sœurs. La première conséquence pour l'apôtre Paul de notre statut d'enfant de Dieu, c'est qu'il dit, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre. Vous êtes tous un en Jésus-Christ. C'est un message d'égalité et d'unité qui est absolument radical. Et particulièrement dans le contexte dans lequel Paul il est en train d'écrire. Si vous connaissez le livre des Galates, vous savez qu'il est en train d'écrire à une église qui est déchirée par des courants d'enseignement qui disent ben, « En fait, c'est bien beau d'avoir cru en Jésus-Christ, c'est bien beau de se dire que je suis la voie du Christ. En fait, ce qu'il faut vraiment, c'est revenir à la loi juive. Il faut revenir à toutes les pratiques de l'ancienne alliance. Il faut se faire circoncire. » Pour les messieurs, il faut suivre les différents rites, les jours fériés juifs et tout ça. Si vous ne faites pas ça, vous n'êtes pas vraiment à Dieu. Vous n'êtes pas vraiment rentré dans la famille de Dieu. Et Paul, il s'insurge contre cette idée qu'il nous faut autre chose que la foi en Jésus-Christ. Et il y voyait surtout une division qui venait. À un moment donné, Pierre était venu dans les églises de cette région de Galatie et sous la pression de ceux qui voulaient à tout prix suivre la loi juive, Pierre s'était même séparé de ceux qui n'étaient pas d'origine juive. Tout cet enseignement qui était venu avait créé une séparation entre les uns et les autres. Et Paul dit... Si vous avez foi en Jésus-Christ, vous êtes tous un en Jésus. Alors ça veut dire que nous sommes appelés à accepter et aimer chacun qui affirme sa foi en Jésus-Christ, quelles que soient les différences entre nous. Et nous sommes tous différents. Et je remercie Dieu, gloire à Dieu que nous ne sommes pas tous les mêmes. Gloire à Dieu que vous n'êtes pas tous comme Pope Davé. Je le dis avec franchise. C'est déjà bien qu'on y ait un, mais Paul dit qu'il faut qu'on jette nos anciens préjugés et qu'on puisse aimer, qu'on puisse célébrer nos différences, Nos différences, c'est notre richesse. Parce que toi, tu ne vas pas saisir les choses de la même manière que moi. Mais ce n'est pas que moi j'ai raison et toi tu as tort, c'est que nous apportons chacun une compréhension complémentaire du cœur de Dieu. Et nous sommes vraiment appelés à recevoir les uns des autres, à célébrer la voix unique que porte l'autre pour recevoir ce qu'il peut m'apporter. Moi, j'ai quelque chose dans le cœur qui languit après une expression de l'Église qui soit vraiment multicolore, multiculture, où noir et blanc, on peut être ensemble et célébrer notre fraternité, où les gens qui sont richissimes peuvent être assis à côté de celui qui n'a rien du tout, et on célèbre le fait de vivre ensemble et que Christ nous a unis. Paul dit aussi que ce message d'être enfant de Dieu, ça veut dire qu'il n'y a pas de barrière. Vous savez, l'enjeu, c'était, les gens, ils disaient, en plus de croire, il te faut faire ci ou faire ça pour être accepté, pour être acceptable dans la famille de Dieu. Dans son contexte, c'était la circoncision, en fait, qu'il fallait faire en plus. Mais vous savez, nous, on fait souvent la même chose dans nos églises. C'est très bien de croire, mais tu sais, avec cette coupe de cheveux, bon, ça c'était un peu le passé. Ou cette longueur de jupe, ça c'était un peu le passé, mais quelles sont les barrières qu'on met encore qui empêchent de communiquer aux gens qu'ils ont leur place dans la maison de Dieu? Vous savez, ces lignes légalistes qu'on dessine, je le disais hier, c'est quelque chose souvent qu'on fait pour nous sécuriser, pour dire, moi je suis bien dedans, eux là-bas, non, c'est pas possible. Ils rentrent pas, parce qu'eux n'ont pas leur vie en règle. Aujourd'hui, c'est peut-être pas celui qui n'a pas la bonne coupe de cheveux, c'est peut-être celui qui n'a pas la bonne orientation sexuelle, qu'on a du mal à accepter parmi nous. Alors je sais que c'est un peu polémique ce que je viens de dire, mais je pense qu'on a besoin de réfléchir à comment on est capable d'accueillir des gens qui n'ont pas encore leur vie en règle, mais qui ont le désir de suivre Jésus-Christ. Ça nous défie. Ça veut dire aussi que l'honneur de mon frère, l'honneur de ma sœur, m'importe plus que mon propre honneur. C'est des belles paroles, ça, mais quand on vient à devoir vivre ça dans la pratique, c'est dur. Ça veut dire, comment est-ce que je vais gérer les conflits? Nous aimons tellement, et moi je m'inclus complètement dedans, nous aimons tellement avoir raison. Nous aimons tellement avoir raison. Mais il y a bien des situations où il vaut mieux avoir de la compréhension que d'avoir raison. Vous m'entendez? Il y a bien des situations où il vaut mieux avoir de la compréhension que d'avoir raison. Et qu'est-ce qui se passe quand ma sœur ou quand mon frère se casse la figure, qui tombe dans un travers, dans un péché, dans une situation où il est en train de se bousiller la vie? Comment est-ce qu'on réagit? On a eu cette image hier du Père que Jésus nous décrit dans Luc chapitre 15. Ce Père qui était prêt, lui, à assumer une honte qu'il n'avait pas assumée afin de couvrir la honte de son fils qui revenait. Comment est-ce qu'on gère ces situations-là où l'un ou l'autre est tombé? Notre Père, il couvre notre honte pour nous restaurer, pour nous guérir. Alors, un deuxième aspect de cette vie de famille, c'est chouette, je sens qu'on est sur la même longueur d'onde, c'est super. C'est qu'on est tous apprentis. On est apprentis ensemble. J'ai beaucoup aimé ce que Fabrice a dit en début de cette réunion. Il a dit, je ne sais pas si vous avez retenu la phrase, nous sommes une famille formatrice. Et j'ai envie de vous dire que ce n'est pas quelque chose qui est à sens unique. Il n'y a pas quelques-uns qui forment et les autres qui sont formés. Ce n'est pas comme ça, la famille de Dieu. Jésus dit à ses disciples, là, et c'est quand quelques-uns disent, mais Jésus, c'est qui le plus grand ? C'est qui le plus grand dans cette bande à nous, cette bande à Jésus ? Il y en a quand même quelques-uns qui sont un peu en avance, n'est-ce pas, Jésus ? Qui ont compris un peu les choses. Qui sont les plus grands dans le royaume de Dieu ? Et Jésus, il prend un petit enfant. Je ne sais pas s'il y a... Il y a un tout petit derrière, dans les bras de sa maman. Et la Bible nous dit que ce n'était pas un enfant, je sais pas, de 7-8 ans. Jésus a pris un petit enfant. Le mot choisi dans le texte était vraiment presque un nourrisson. En tout cas, un enfant qui n'a pas plus grand que l'âge de l'école élémentaire. Et il dit, si vous ne vous convertissez pas et que vous nous devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez tout simplement pas dans le royaume de Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a tellement de choses à expliciter dans cette notion de devenir comme des enfants de Dieu. Juste la chose que je veux faire ressortir, c'est qu'il est évident qu'un petit enfant a tout à apprendre. Tout à apprendre. Et le verset suivant, Jésus fait le lien avec l'humilité. Il dit, rendez-vous humble comme cet enfant. Nous entrons dans le royaume de Dieu avec cette attitude d'humilité. Le témoignage de l'huissier était tellement fort ce matin. Jésus a été clair avec lui. Tu ne rentres pas avec tes propres pensées. Tu ne rentres pas avec ta propre force. Tu ne rentres pas avec tout ce que tu sais faire d'avant. Toutes tes envies qui sont là dans ta chair, ce n'est pas ça. Mais je crois aussi que cette attitude d'apprenti, c'est comme ça aussi que nous progressons, que nous avançons. On n'est jamais arrivé. On n'est jamais arrivé en tant que disciple. On ne peut jamais s'asseoir et dire c'est bon. Là, toutes les leçons, je peux les cocher, tac, 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 c'est bon. J'ai le certificat, je suis tranquille. Non, on n'est jamais arrivé. On est toujours des apprentis jusqu'au dernier jour de notre marche avec le Seigneur sur cette terre. Il y a une chose incroyable. Est-ce que vous vous rendez compte que la Bible nous dit que même Jésus-Christ a appris des choses ? Hébreux 5:8, bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Alors comme Jésus, nous apprenons bien des choses dans la souffrance. Il y en a un qui est bien placé pour le savoir ce matin, il nous l'a partagé. Mais je pense que nous apprenons beaucoup, peut-être même surtout, dans nos relations les uns avec les autres. J'ai le souvenir, il y a beaucoup d'années de ça, d'un camp dessiné où une très bonne amie à moi, une amie qui est missionnaire au Maroc, a prêché et elle a partagé une image que Dieu lui avait donnée. Et Dieu lui avait parlé de l'église. Il a dit, l'église est pleine de diamants, mais ce sont des diamants bruts. Vous savez que vous êtes des diamants bruts. Le diamant brut, ce n'est pas l'article fini. Pour devenir ce qu'il est appelé à être, il a besoin d'être taillé. Aïe, aïe, aïe. Mais est-ce que vous savez qu'est-ce qu'on utilise pour tailler un diamant ? Quel est le seul matériau capable de tailler un diamant ? C'est un autre diamant. Alors Dieu, il nous met ensemble ces diamants bruts. Et parfois, il y a des heures. Parfois, il y a des chocs. Parfois, ça clash entre nous. Il y a des moments où on se fait mal. C'est la vie en famille, c'est la vie en communauté, c'est la vie d'église. J'ai l'impression que, en tant que communauté, vous avez vécu toute une période où c'était un peu la lune de miel. Vous avez appris à vous aimer, à vous réjouir, à vivre la joie ensemble. Et par moments, il y a un peu ce moment dans la vie d'un couple où est-ce qu'on va être capable de continuer à s'aimer quand c'est plus la lune miel ? Est-ce qu'on est capable de faire ses choix d'accepter et d'aimer l'autre, de pardonner l'autre quand il me fait mal. Mais c'est surtout dans cette attitude d'apprenti de se dire, mais dans ces situations-là, est-ce que je suis prêt à me remettre en cause? Est-ce que je suis prêt à dire, là, j'ai encore des choses à apprendre. Là, dans cette situation, j'ai peut-être ma part de responsabilité. J'ai des choses à soumettre encore à Dieu. Est-ce que je laisse cette situation me tailler, me façonner pour que je devienne encore plus conforme à l'image de notre grand frère Jésus? Il y a un principe que je trouve important dans toutes nos relations. C'est tout simple. C'est dans le livre de Jacques. J'aime bien le livre de Jacques parce que c'est hyper pratique. Plein de petits conseils comme ça distillés. Jacques 1, 19. Que tout homme soit prompt à écouter et lent à parler et lent à se mettre en colère. Dans toutes les situations où nous nous frottons les uns avec les autres, soyons prompts à écouter ce que le Saint-Esprit peut vouloir nous dire. Avant de parler à l'autre et dire, ben, t'as vu dans ton œil la paille que tu as? Attention, qu'est-ce que tu as dans ton propre œil, toi-même? Un autre aspect de cette fille de famille, c'est de savoir honorer les pères et les mères dans la famille. Super. Il y a peut-être 2 ou 3 ans, j'étais dans une conférence avec notre famille d'église Salt and Light. Il y avait une réunion, c'était un soir, et un jeune responsable qui doit avoir peut-être, je dis jeune, il doit avoir peut-être 4 ou 5 années de plus que moi, donc je me vois comme jeune encore, peut-être d'autres non, mais... Et il a dit, je sens que ce soir, Dieu nous appelle à prendre un moment, simplement pour honorer les pères dans notre famille qui nous ont précédés. Et on a pris tout un temps où chacun s'est levé à sa place et on a applaudi des hommes et des femmes qui étaient comme des pères et des mères, dont un qui était présent, c'est la dernière fois que je l'ai vu parce qu'il est auprès du Seigneur maintenant, qui s'appelle Barney Coombs, qui était comme un père fondateur de cette famille. Et nous nous sommes tenus là à applaudir et à honorer ces pères. Et vers la fin de ce moment, j'en avais les larmes aux yeux. Et je sentais que le Seigneur me parlait. Il me disait, quand vous honorez les pères, vous honorez ma paternité parmi vous. Quand vous êtes en mesure d'honorer ceux que je vous ai permis de recevoir comme père, vous recevez ma paternité. Paul va dire dans Éphésiens chapitre 3 et verset 14, « Je fléchis le genou devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. » Il y a un jeu de mots dans le grec parce que le mot père et le mot famille, c'est la même racine. La famille, c'est ce qui appartient au père. Toute paternité, toute vie de famille est quelque part le reflet de Dieu. Quand on sait honorer les pères et les mères, on honore la paternité du Père Céleste. Et honorer les pères et les mères est quelque chose qui apporte la vie. Un peu plus tard, dans le même épître, Paul va faire remarquer que dans les 10 commandements, c'est le premier commandement qui est associé à une promesse. Honorez votre père et votre mère afin que tes jours se prolongent sur la terre. Paul va dire, cette promesse, c'est que vous soyez heureux et que vous vivez longtemps. Moi, je pense spirituellement qu'une ambiance où on honore la paternité que Dieu a mise sur la famille, c'est une ambiance qui libère la vie. Ça libère des possibilités d'enfantement, ça libère des possibilités d'être pleinement qui nous sommes appelés à être. Il y a un super exemple dans la Bible, c'est l'exemple de Timothée. Paul va dire de lui qu'il a été capable de servir non pas ses propres intérêts, mais qu'il a été au service de l'Évangile, avec moi, c'est-à-dire avec Paul, comme un enfant avec son père. Si on a des cœurs d'enfant, c'est qu'on est capable de servir la vision de quelqu'un d'autre, peut-être pendant des années, être prêt à servir dans quelque chose, même si ce n'est pas tout à fait ma vision. Mais je sers parce que Dieu m'a appelé à être un enfant dans une famille. Être prêt à servir, même si la gloire ne va pas me revenir. Ça, c'est un cœur d'enfant de Dieu. C'est quelque chose qui est difficile. C'est tellement difficile. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une culture d'individualisme, on est dans une culture d'auto-réalisation. On nous envoie ces messages qui disent « Sois l'auteur de ta propre vie. Prends ton destin en main. Sois celui qui décide. » Ça nous pousse à rejeter les contraintes ou le fait d'accepter quelqu'un d'autre qui serait en quelque sorte une voix, un guide sur notre vie. Êtes-vous capable de faire confiance aux responsables que Dieu a placés ici, à Bob, à Patricia, aux autres qui sont dans l'équipe de direction? Ce n'est pas parce que ce sont des pères et mères parfaits. Loin de là, ils vous le diront eux-mêmes. La question est ailleurs. La question c'est, est-ce que vous êtes prêt à faire confiance à Dieu, le Père, et les choix qu'il a posés, et sa manière de choisir d'utiliser les uns et les autres? C'est là la question vraiment. Est-ce que vous faites confiance à Dieu, le Père? Et je sais que ça peut être difficile aussi parce que dans d'autres contextes, certains ont vécu des abus, d'autorité de la part d'un père naturel, de la part d'un père spirituel. Alors comment est-ce qu'on peut refaire confiance après? Comment est-ce qu'on arrive à refaire confiance? C'est dur, je le reconnais. Mais il y a une seule manière de sortir de ces blessures-là du passé. Et ça s'appelle le pardon. Ça s'appelle le pardon. Et le pardon, c'est pas juste passer l'éponge et faire comme si rien n'était. Le pardon, c'est quelque chose qui est plus profond que ça. Le pardon, c'est être capable de citer le tort. C'est pas dire que ça n'a pas eu lieu. C'est dire, j'ai été blessé parce que quelqu'un a eu tort. Et je suis capable de le dire, mais je suis capable de ne pas laisser cette situation m'enfermer comme prisonnier pour le reste de ma vie. Vous connaissez pour certains cette parabole de Jésus où il y a un roi qui pardonne à son serviteur une énorme dette. Ce serviteur n'a pas été capable de pardonner une petite dette à son collègue et il finit en prison. Alors je résume peut-être très vite. Mais tu vois dans cette histoire deux places où on peut être assis. Soit on peut être à la place du roi, celui qui est capable de gracier, de pardonner, soit on peut finir en prison. Il n'y a pas vraiment d'entre deux. Nous sommes enfants du roi, nous sommes fils et filles du roi. Et le pardon est un acte royal. C'est un chemin pour sortir de l'esclavage et de la prison. Vous savez pourquoi? C'est parce que en pardonnant, on est libéré de l'état de victime. On n'est plus victime une fois qu'on a su pardonner. Parce qu'on dit, ça ne me définit plus. Ça ne me définis plus comme personne ce que j'ai souffert, ce que j'ai vécu avec un tel. Je suis libre de ça et je deviens à nouveau capable d'être acteur, capable de dire, ben moi je décide de le pardonner. Moi je décide de plus être tenu par ce qui s'est passé. C'est quelque chose de puissant, le pardon. Et je pense que je sens vraiment que pour certains, il y a une étape à vivre afin de comprendre et de vivre vraiment dans la paternité. J'ai encore un peu de temps, Bob? Ok. Juste un deuxième aspect, parce qu'on a beaucoup parlé de la vie de famille. J'aimerais parler de notre vie de service aussi. Je me souviens, il y a peut-être une quinzaine, voire une vingtaine d'années, avoir été en tant que jeune dans une conférence. Je ne me souviens rien d'autre qu'une petite phrase que l'orateur a dit. C'était en Angleterre, c'était en anglais, donc pour ceux qui aiment ma langue maternelle, vous êtes servis. Love without hooks. Je ne sais pas si vous comprenez le mot hook, c'est un crochet, ou comme dans cette image, un hameçon. C'est-à-dire que Dieu nous appelle à avoir cet amour agapé, cet amour qui était en Jésus-Christ, qui a su donner, aimer, se livrer, se consacrer, sans attendre un retour. Le crochet, c'est quelque chose qui cherche à ramener finalement ce qu'on aura touché vers nous. Vous comprenez l'image? Et trop souvent, dans notre état orphelin, on n'a pas su aimer sans avoir cette attente qu'il y a quelque chose qui me revienne quand même par derrière. Sommes-nous capables d'aimer sans crochet? Dans l'état d'esprit orphelin, on ne fait rien sans arrière-pensée. On n'est pas capable de servir sans chercher quelque part à ce qu'une part de reconnaissance me revienne. On n'est pas capable de donner dans cet esprit orphelin sans espérer quand même que quelqu'un aurait vu toute la générosité dont j'ai fait preuve. On est toujours à la recherche d'une reconnaissance, d'une acceptation, d'être bien vu. C'est ça toujours le petit crochet qui est là, même dans nos meilleures actions. Alors comment peut-on vivre véritablement dans cet exemple de Jésus? Alors je veux vous amener à un passage où on le voit démontrer son amour au plus haut point. C'est dans Jean chapitre 13, au moment où Jésus va démontrer son amour en lavant les pieds des disciples. C'est véritablement un choc pour ses disciples de le voir s'abaisser comme ça. Il prend le rôle du dernier des derniers. Il prend le rôle de l'esclave. Il prend les pieds sales de ses disciples. Il se salit les mains. Certains écrits juifs de l'époque disaient que c'était même pas possible qu'un serviteur juif le fasse. C'est tellement dégradant qu'on n'acceptait qu'un étranger pour faire ce rôle-là. Et Jésus dit, je fais ça pour vous. Juste quelques versets qui introduit ce passage, Jean chapitre 13, à partir du verset 1. « Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, Jésus, qui savait que le Père avait mis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, et qui s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge. Et ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec un linge dont il est saint. Il vient donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» C'est un choc, c'est un scandale, oui. C'était carrément un scandale ce que Jésus faisait. Mais il va dire plus tard, je vous ai donné un exemple. Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Je crois que dans ce qu'il a fait, il est comme une parabole vivante. Il s'est levé de table. Il a dit aux disciples, je ne suis pas attaché à ce que je garde la bonne place, moi. Il a ôté ses vêtements. C'est-à-dire qu'il disait, j'enlève tous les signes de mon statut, tout ce qui fait de moi un homme juifs respectables dans la société. Tout ça, j'enlève pour vous. Il prit un linge dont il se saignit. Il dit par là aux disciples, là j'assume l'attitude d'un serviteur. Personne ne m'oblige à le faire, mais je choisis de le faire pour vous. Est-ce que vous entendez des échos dans cette histoire? Jésus qui se dépouille, lui qui existait en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un poids arraché d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Il est devenu semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. En lavant les pieds aux disciples, il donnait comme un aperçu de ce qu'il allait faire à la croix, quelques heures seulement plus tard. Et Jésus n'avait pas cette culture de droit qu'on connaît aujourd'hui. On parle énormément dans notre monde moderne des droits humains, des droits de l'homme. Il avait tous les droits, Jésus. Mais il s'y est pas du tout attaché, il s'accrochait à aucun droit. Parce que son focus, ce n'était pas sur ses besoins, ce qu'il pourrait obtenir lui. Et moi, mon défi à vous lancer, c'est est-ce que, je me lance moi-même, est-ce que je suis prêt à m'humilier, à me dépouiller? Est-ce que je suis prêt à renier, jusqu'à renier mes propres droits, mettre à la dernière place pour ceux que Dieu aime? Et le verset clé qui nous aide à comprendre comment Jésus était capable de faire ça, c'est le verset 3. Regardez ce verset avec moi. Il dit que Jésus savait que le Père lui avait remis toutes choses entre les mains, qui était venu de Dieu et qui s'en allait à Dieu. S'il était capable de vivre ce service, c'est qu'il était affirmé dans son identité. Hier soir, on a parlé de cette voix qui avait parlé sur lui, l'amour, l'acceptation, l'approbation du Père. Il savait qui il était. Il savait qu'il était venu de Dieu, qu'il s'en allait à Dieu. Il savait que son passé, il n'y avait rien à prouver. Il n'y avait pas une place à gagner. Il savait là où il allait. Il savait son avenir. Il était assuré. Et c'est cette assurance-là qui change nos priorités, qui change notre manière de voir. C'est cette assurance qui nous permet de nous occuper des affaires du Père. Et tu peux passer les deux prochains slides. Voilà. Parce que Jésus, ce qui a marqué sa vie, dès le début, dès son enfance, c'était qu'il s'occupait des affaires du Père. Il avait 12 ans, il était au temple, sa mère Marie, son père adoptif, Joseph, sont venus le trouver au temple. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit, mais ne saviez-vous pas que je devais m'occuper des affaires de mon père? C'était sa mission, c'était sa vie, il s'alignait à ceux qu'intéressait à son père. Et ça a marqué sa vie jusqu'à la fin. Petit quiz biblique, qui est-ce qui sait le seul moment dans l'évangile où on entend dans la bouche de Jésus cette fameuse prière « Abba, Père ». Quel est le seul moment dans les évangiles où on entend Jésus dire « Abba » Est-ce que vous le savez? C'est juste. C'est au jardin de Gethsémané où Jésus prie « Abba, Père ». Toutes choses te sont possibles. Il avait encore pleinement confiance à Dieu. Éloigne de moi cette coupe. Il était face à une réalité de souffrance et il savait ce que ça allait lui coûter. Mais il était capable de dire « Abba Père, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Ce moment, cette prière d'intimité, Abba, implique aussi de mettre nos vies au service des affaires de notre Père. Est-ce que je suis prêt à sacrifier mon confort, mes souhaits personnels, passer cette porte à nu, comme disait Luigi, parce que dès aujourd'hui, mes priorités en tant que fils vont être les priorités du Père. Et quelles sont les priorités de notre Père? Quelle est son entreprise familiale à laquelle il veut que nous rentrions? Moi, je crois que c'est avant tout d'agrandir la famille, de faire rentrer à la maison les fils et les filles perdus, les orphelins de ce monde. Hébreux 2:10 nous dit que celui pour qui et par qui toute chose existe voulait conduire la gloire beaucoup de fils. Le cœur de notre Père soupire encore après ces enfants perdus qui doivent revenir à la maison. Voici à quoi notre Père est affairé. Et j'aimerais terminer avec l'image que j'ai montrée à ceux qui étaient là hier soir, en introduisant un peu ce que Dieu m'a mis à cœur à ce sujet. C'est la photo de ma fille, prise de travers, parce que c'était dans les conditions un peu... dans son orphelinat. Et Dieu, quand j'avais cette image imprégnée en moi, était venu me chercher, me parler. Et il m'a dit de regarder dans ses yeux, de recevoir son cœur pour les enfants perdus, de recevoir et de comprendre leurs besoins, de connaître leur Père céleste. Ces orphelins qui ne connaissent pas le prix qui a été payé, la valeur qu'ils ont aux yeux de leur Père. Et Dieu m'a dit de regarder dans ces yeux-là, de regarder et de recevoir le cœur de Père, de ressentir ce besoin qu'ils avaient de rentrer à la maison, de me laisser toucher mon cœur pour tous ces enfants perdus autour de moi. Je pense que ce matin, de toute façon, c'est dans votre ADN. Le Père veut encore ranimer ce feu qui est là pour les enfants perdus qui doivent rentrer à la maison. Et en tant que fils et filles, il nous met au défi de dire, mais est-ce que les priorités de votre vie sont alignées à mes priorités? Est-ce que tu es vraiment rentré dans cette entreprise familiale au point de dire, là je me donne entièrement. Je laisse mes pensées, mes souhaits, mais que ma vie soit alignée avec tes priorités. J'aimerais peut-être qu'on se lève ensemble et qu'on demande au Saint-Esprit de venir sur nous à nouveau. On a été visité hier soir. Et je dis, Père Céleste, merci parce que tu as su venir nous chercher. Tu as su venir nous lever de notre état de détresse. Tu as su venir parler à nos cœurs orphelins. Tu as su venir briser nos chaînes afin que nous recevions cet amour du Père. Saint-Esprit, merci pour l'œuvre que tu as faite dans la vie de chacun de nous. Mais aujourd'hui, je te prie que tu puisses venir souffler et donner à chacun de nous une nouvelle impulsion afin d'être porteur de cet amour pour tes fils et tes filles perdus. Père, tu as un cœur tellement grand, tu vas accueillir encore et encore des enfants perdus dans ta famille. Et nous prions vraiment que nous puissions aligner nos vies et nos priorités comme Jésus l'a fait, afin que cela puisse te connaître en tant que Père. Saint-Esprit, remplis-nous d'une nouvelle puissance, remplis-nous d'une nouvelle compassion, remplis-nous d'une nouvelle révélation de qui nous sommes et de qui tu es, afin que tu puisses agrandir cette famille qui est la tienne. Père céleste, touche à nouveau nos cœurs par ton amour. Saint-Esprit, viens réanimer cette flamme d'amour pour toi et pour les enfants perdus. Dans le nom de Jésus. Te laisser une pensée très spécifique que j'avais reçue ce matin en particulier, c'était sur cette question du pardon, de figure d'autorité, de figure de père qui aurait été dans une attitude abusive et des situations où vous auriez été blessé par un père naturel ou spirituel. Je voudrais vraiment inviter, si c'est votre cas, de ne pas partir sans avoir réglé ça. Si quelque part la personne concernée là, prenez l'occasion d'aller voir cette personne et de partager, de libérer ce pardon aujourd'hui. Si vous avez de la difficulté et peut-être que la personne n'est pas là, mais que vous avez besoin de vivre quelque chose dans le pardon, il y a des personnes qui seront sur le côté là-bas où vous pourrez recevoir de la prière, simplement être accompagné dans cette démarche de libérer le pardon et d'être libéré vous-même de ces blessures. J'avais juste ça très spécifiquement pour certaines personnes qui seraient concernées par ça.